News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 9 octobre 2025, deuxième et dernière journée du Forum des métiers Grenoble-Alpes Métropole, édition 2025 à Alpes Expo Grenoble.
Toujours installé à l'Alpexpo ici à Grenoble pour ce forum des métiers et donc toutes les tables rondes s'enchaînent. On a eu l'occasion de parler de bâtir durable avec un emploi, formation et mixité pour tous juste avant et aujourd'hui donc prochaine table ronde, la table ronde numéro 3, transition énergétique, enjeux métiers et formation. Et comme je le dis depuis le début, depuis ce matin, je ne suis jamais tout seul ici sur le plateau. On aura l'occasion de présenter nos invités. On va commencer tout de suite par Valérie. Qui est Valérie autour de moi? Valérie est en face de moi, magnifique. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Valérie, donc, vous faites partie d'Engie. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre fonction et puis nous présenter un petit peu Engie en quelques mots?
Donc moi je suis dans la fonction ressources humaines, je m'occupe de people development en bon français et donc ma mission principale est de travailler sur la mobilité interne et la marque employeur, d'où ma présence ici aujourd'hui.
Ça fait combien de temps que vous faites ça?
Ça fait 2 ans que je suis dans la fonction.
C'est récent, ça va.
Très 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 longtemps que je suis dans le groupe.
Et du coup qu'est-ce qui vous intéresse au quotidien, le groupe Engie qu'on connaît très bien, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans votre métier, dans ce que vous faites?
Ce qui me passionne, en fait, c'est d'accompagner les collaborateurs dans leur transformation et dans leur parcours professionnel au sein du groupe et de leur ouvrir le champ des possibles pour leur faire découvrir des métiers différents.
Et quand vous dites que vous êtes là donc, dans le groupe depuis très longtemps, là, depuis 2 ans, vous faites partie du coup de People Development. Qu'est-ce qui a fait changer ce côté-là?
J'étais côté projet et voilà, j'ai voulu basculer de l'autre côté, la fonction ressources humaines, pour accompagner les collaborateurs et leur faire bénéficier aussi de mon expérience et de ma connaissance du groupe.
Eh ben super, merci beaucoup Valérie, on reviendra d'ici quelques instants. Donc on le rappelle pour nos auditeurs, c'est une table ronde, donc on invite les invités à réagir à chaque fois. Bon là on fait la partie présentation et Chris Merel qui est avec nous, directeur territorial Isère de Enedis, bonjour.
Oui, bonjour.
Un plaisir de vous accueillir.
Merci.
Pareil que Valérie, est-ce qu'on peut présenter peut-être rapidement Enedis et puis votre fonction au sein d'Enedis?
Oui, tout à fait. Donc Enedis, en fait, c'est le distributeur d'électricité sur 95% du territoire français. C'est près d'1 400 000 kilomètres de réseau électrique qu'on exploite. Et donc, nous, nos missions, ça va être à la fois d'entretenir ce réseau et puis de raccorder les nouveaux clients, que ce soit des producteurs ou que ce soit des clients qui consomment. Ce réseau, il ne nous appartient pas, il appartient aux communes. Et donc, il nous est concédé.
Et Enedis, ouais, ça fait beaucoup de... Parce que Enedis, quand même, c'est quand même très connu sur la commune, enfin, en tout cas, en France, hein, quand même. Mais je veux dire, moi, je vois souvent Enedis. En tout cas, donc c'est que ça marche.
C'est que ça marche.
En tout cas, au plaisir d'échanger d'ici quelques instants. On a Audrey Champel, donc responsable du service bâtiment au Greta de Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
Le Greta, pareil, Greta aussi, on en entend parler du Greta, mais on aimerait quand même avoir une petite présentation et nous expliquer un petit peu votre fonction au sein du Greta de Grenoble.
Tout à fait. Le Greta de Grenoble, c'est les groupements d'établissements. Donc nous sommes un organisme de formation qui s'appuie sur les plateaux techniques des établissements publics d'enseignement supérieur, ce qui nous permet d'avoir des plateaux techniques de grande qualité et de pouvoir nous appuyer sur un maillage territorial extrêmement grand.
Et du coup, pareil, ça fait combien de temps que vous faites ça, vous?
Alors du coup, moi, ça fait 4 ans que je suis au sein du Greta. J'ai d'abord débuté sur le service industrie et ça fait 2 ans que je suis sur le service bâtiment, sur la même fonction de responsabilité de service.
Yes, et ben on aura l'occasion d'en discuter d'ici quelques instants. Et pour finir, on a Annabelle Morisseau, qui est directrice opérationnelle du coup de CMQ. Ah, ça c'est anglais en plus. Alors, moi, vous savez, je suis très mauvais en anglais, hein, je vais essayer quand même. CMQE, Smart Energy System.
Tout à fait.
Bonjour. On est bon? Sans erreur en plus?
Parfait.
Magnifique. Et ben, bienvenue Annabelle, donc directrice opérationnelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette structure, s'il vous plaît?
Oui, tout à fait. Donc le CMQ, en fait, c'est le campus des métiers et des qualifications. Donc,
c'était plus simple de le dire comme ça.
Voilà, en bon français. Et donc au campus des métiers et des qualifications, on œuvre pour la réussite de la transition énergétique. Et pour cela, on travaille sur les compétences et l'attractivité des formations et des métiers en mettant en réseau des partenaires que sont les entreprises, donc représentées aujourd'hui par Valérie et Chris avec Enedis et Engie, les établissements de formation au sens large, formation initiale et continue, du bac-3 au bac+8, donc le Greta représente aussi aujourd'hui ces organismes de formation, des laboratoires de recherche et des institutions territoriales ou d'État.
Et justement, je vais commencer avec vous pour démarrer ce premier sujet. Justement, quels sont un peu les défis au quotidien? On parle justement d'attractivité. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, comment intéresser toutes ces personnes qui veulent vous rejoindre aussi? Quels sont un peu les défis du moment?
Tout à fait. Effectivement, l'attractivité, c'est un des premiers défis. C'est pas le seul, loin de là. Et je pense autour de la table, on pourra tous en parler. Mais c'est important. La filière transition énergétique souffre peut-être d'un défaut de visibilité ou de lisibilité. En fait, elle recouvre de nombreux secteurs assez différents et des acteurs assez variés. Donc voilà, il y a plusieurs typologies d'actions qu'on peut mettre en œuvre, mais en tout cas au campus des métiers, en lien avec l'ONICEP notamment, et puis un comité stratégique de filière nationale aussi sur les nouveaux systèmes énergétiques, on a créé un label en fait, des métiers de la transition énergétique qui regroupe 100 formations et 70 métiers pour permettre aux jeunes, aux familles et aux personnes en reconversion de mieux identifier les métiers dont on a besoin et les formations qui y conduisent pour la transition énergétique. C'est un exemple.
Justement, quand on parle d'attractivité, notamment là, je donne la parole au Greta de Grenoble avec Audrey. C'est des problématiques que vous avez rencontrées, vous, ce côté d'attractivité. Comment intéresser les gens à vous rejoindre, en fait?
L'attractivité est vraiment l'enjeu principal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des formations qui sont réelles, où il y a une transformation, c'est-à-dire que les personnes qui sortent de formation sont employables et trouvent un employeur en sortie de formation. Et pour autant, on peut parfois être en difficulté sur la phase en amont, qui est la phase de recrutement. Comme le disait Annabelle, je rejoins sur la partie lisibilité, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens ont des représentations sur ces métiers-là, qui sont parfois un peu à côté de la réalité. Et c'est ce qui fait qu'on n'attire pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on devrait, sachant qu'aujourd'hui, c'est une filière qui a un besoin fort en recrutement et où il y a des débouchés.
Et puis, c'est tout un travail derrière aussi. Hein. Attractivité, c'est qu'un mot, mais derrière ce mot, il y a quand même beaucoup de travail qui est mené. Chris, justement, du côté d'Enedis, pardon, c'est des choses qu'on retrouve aussi, cette attractivité, de comment les intéresser, en fait, ces personnes-là.
Oui, c'est des choses qu'on retrouve. Alors, et pour, je dirais en plus, pour plusieurs raisons, dont une principale, c'est qu'on est dans une période où on a la chance d'être une entreprise en croissance. La transition énergétique, ça amène du travail, ça nous demande de raccorder beaucoup de nouveaux clients qui vont produire de l'électricité. Hein, 90% des nouveaux clients qui produisent de l'électricité se raccordent sur le réseau de distribution. Donc, ça fait beaucoup d'installations à raccorder et donc un volume de travail qui est important pour avoir un ordre de grandeur. D'ici 2030, c'est 43 000 personnes qu'on va embaucher dans la filière, hein. Pas forcément que chez Enedis, hein. Ça va être le réseau de transport, ça va être l'ensemble de nos entreprises partenaires. Il faut savoir que chez nous, pour un salarié d'Enedis, on a à peu près un salarié qui travaille dans une entreprise partenaire. Donc c'est 750 emplois Enedis sur l'Isère et 750 dans nos entreprises partenaires. Donc c'est un vrai c'est un vrai défi déjà de recrutement et puis avec des filières techniques qui fournissent une quantité de techniciens qui est aussi limitée. Et là on peut parler d'attractivité de l'ensemble des métiers techniques. Et donc on y reviendra sans doute plus tard, mais on a pris le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. En développant et en s'associant entre autres avec l'aide de l'État bien sûr, avec des lycées pour rapporter ce qu'on appelle des couleurs, donc un petit peu de sens et de formation complémentaire autour des métiers du réseau pour donner envie aussi aux jeunes de partir sur ces métiers de technicien de réseau électricité.
Et du côté d'Engie, pareil de votre côté, comment on les attire ces personnes-là? Parce que c'est tout un travail comme je le disais.
Oui, alors nous, on va aller sur des événements comme celui-ci aujourd'hui. Hein, il y a des événements de marque employeur pour faire connaître les métiers et promouvoir ces métiers.
On a une communauté de techniciens ambassadeurs qui intervient dans ce type d'événement pour justement promouvoir et faire connaître le métier électrique et gaz, puisque nous, on a cette particularité vraiment de jongler sur les deux, et une position très différenciante, puisqu'on croit vraiment à l'alliance de la molécule et de l'électron. Donc visibilité, également formation. On a développé en interne un CFA hors les murs, donc aller à la rencontre finalement de populations qui sont soit en transition de professionnels, soit qui ont décroché à un moment donné de l'école, et les faire venir dans des bacs pro de type M2E, maintenance électronique, ou MELEC.
Justement, comme disait Madame Gibert, Chris, justement, le fait de venir ici, c'est aussi essayer d'intéresser ces personnes-là, et c'est un pas aussi que vous faites en tant qu'entreprise.
Tout à fait, c'est une action de promotion, et donc on a un stand avec une équipe qui est présente. On a amené aussi un camion nacelle, et on a beaucoup de jeunes qui montent dans la nacelle. Tout à fait.
J'ai pas vu. J'ai loupé le camion, alors c'est fort.
Il est au fond, mais il est, il est assez très bleu. C'est une belle action, et donc effectivement on va aussi au-delà de nos lycées partenaires, on va aussi dans des lycées, on va présenter très régulièrement sur les forums nos métiers, effectivement, pour attirer, pour donner envie déjà aux jeunes de comprendre ce qu'on fait, et puis une fois qu'ils ont compris, de partir dans ces filières techniques qui sont des filières que je trouve extrêmement nobles.
Et le Greta, du coup, du côté du Greta, comment se font un peu les connexions avec les différentes entreprises ?
Alors nous, le fonctionnement, on est en lien avec les partenaires et les entreprises du territoire. Notre ADN, c'est vraiment de créer des formations ou des modules de formation liés aux besoins. C'est-à-dire que les entreprises ont effectivement des métiers qui évoluent. Il y a des bases de connaissances qui restent cependant identiques. Nous, on va travailler sur la technicité et le besoin particulier des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là qu'on travaille aussi avec Annabelle, le CMQ, pour mettre en place des formations bien spécifiques sur ces thématiques-là. Et puis après, l'évolution, nous, on la suit à la même vitesse que les entreprises. Après, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, la couleur dont parlait Chris, quels que soient les métiers, aujourd'hui, la transition énergétique, elle est incontournable. Donc déjà, notre fonctionnement, je dirais de base, c'est déjà de revoir toutes les formations que nous proposons, en ayant déjà 20% qui soient vraiment axés sur cette vision-là, de manière à ce que toutes les personnes qui sortent de formation aient cette conscience et cette vision globale du système.
Et puis, comme je disais sur les précédentes tables rondes aussi, sur les différents sujets, mais en fait, aujourd'hui, tout a changé, en fait. Il y a des métiers aussi qui ont été... qui ont été revus aussi, parce que ça a évolué avec le temps. Quand je dis ça vous parle de ce côté-là les métiers ont changé aujourd'hui. On ne voit plus les choses de la même manière et ça a vachement évolué. Enedis, Engie, je pense que vous en êtes aussi les principaux concernés. Hein. Chris, oui.
Allez. Oui, tout à fait. Alors en fait, on a certains métiers, on a des métiers de base quelque part qui sont toujours présents, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont été augmentés. Ils sont aujourd'hui beaucoup plus numérisés, il y a beaucoup plus d'aide aujourd'hui. On partait avec un bon de travail, aujourd'hui on part avec une tablette numérique, et dans une tablette numérique, on a beaucoup plus d'informations. On est capable de dialoguer à distance en filmant ou en faisant une photo du matériel, ce qui permet d'échanger, de comprendre, ce soit plus fluide. On a aussi des nouveaux outils qu'on n'avait pas auparavant. Aujourd'hui, on a pas mal de drones qui nous permettent d'aller observer l'état en haut d'un poteau,
au lieu
d'un
d'aller
câble ou d'une attache à la place de monter. Donc c'est à la fois de la sécurité, c'est de la rapidité, c'est des nouvelles technologies qui n'existaient pas, c'est des agilités aussi plus ou moins accessibles suivant notre âge, je ne devrais pas le dire. Mais voilà, c'est vraiment des métiers qui vont évoluer, et ces métiers de base... Pour autant, c'est toujours des métiers qui sont dehors, qui sont sur le terrain, qui sont extrêmement utiles. Puis après, on a aussi des nouveaux métiers, mais qui sont plus des métiers de niche, mais sur lesquels il nous faut aussi recruter. Hein. C'est des data scientists, c'est des professionnels de l'électrotech. Et donc, on a un mix un peu des deux qui est extrêmement riche et qui fait qu'il y a de la place pour tout le monde.
Valérie, justement, je parlais d'Engie. Vous, pareil, il y a des choses qui ont évolué, j'imagine, avec le temps.
Oui, alors ça a été dit, hein. Pour moi il y avait trois axes en fait, de transformation de nos métiers L'axe digitalisation qu'on a entendu hein, de la part d'Enedis, c'est voilà, tous les drones, la robotique et le technicien de terrain en fait est outillé aussi avec du digital. Il ne revient plus à la base avec son véhicule comme il faisait avant. Il est vraiment en autonomie avec de la gestion à distance. Le deuxième pilier, c'est quand même beaucoup de plus de compétences interpersonnelles qu'on attend aujourd'hui des techniciens. Ils doivent vraiment avoir ce qu'on appelle des soft skills et de pouvoir gérer leurs parties prenantes. Et le troisième volet, pour moi, c'est la gestion de l'énergie. C'est vraiment on est dans le mix énergétique, on a le développement des énergies renouvelables, de l'intermittence, on a aussi la capacité à avoir des nouvelles technos comme les batteries. Et donc tout ce mix fait qu'il y a vraiment les métiers autour de la gestion de l'énergie qui se développent.
Et justement, est-ce que vous êtes facilement adapté, mais par rapport aux employés, justement, eux aussi s'adaptent, comment ça se passe? Parce que vous, en tant que directeur, peut-être qu'il y a plus de facilité à s'adapter, mais eux, finalement, sur le terrain, est-ce qu'ils arrivent à s'adapter à tout ça?
Oui, bien sûr, oui.
Les contrôles des drones, leur métier a quand même vachement changé.
Ça a changé, après ce que je disais, le métier de base, ça reste
le même.
C'est accompagné. Il y a beaucoup de formations en interne. On a la chance d'avoir une entreprise qui forme énormément. Donc tout ça, c'est accompagné. Ça se fait dans le temps. Et en fait, ce que je dis, on a vraiment de la place pour tout le monde parce qu'effectivement, il y a encore aussi beaucoup de gestes techniques. Donc il y a une répartition dans l'équipe aussi qui peut se faire en fonction des habiletés. Des habiletés. Et puis, on monte en puissance. On monte en puissance petit à petit. On a aussi un renouvellement de génération qui a déjà bien débuté, hein, mais qui est toujours en cours. Et c'est même au contraire extrêmement intéressant et riche parce que certains et les plus jeunes vont être un peu plus à l'aise sur ces outils, mais en même temps, ceux qui sont un peu plus anciens vont apporter beaucoup avec leur expérience. On travaille aussi justement sur la transmission du savoir et sur les dernières années de travail dans l'entreprise où on est en train de mettre en place, on pourrait quasiment parler de filière de transmission pour faire en sorte que ces personnes qui ont des années d'expérience sur le réseau soient capables de transmettre aussi leur savoir. Donc ça se partage.
Au niveau de tout ce qui est formation, comment ça se passe? Bon, je pense à Annabelle, directrice opérationnelle. Du coup, comment ça se passe au niveau de la formation et du recrutement? Est-ce qu'il y a des difficultés à attirer toutes ces personnes-là, en fait?
Alors, il peut y en avoir, mais on travaille dessus. Il peut y avoir une question au moment de remplir les formations, de recruter. Il peut y avoir une question aussi de... comment dire, d'éviter du décrochage. Donc il y a une question non seulement entre guillemets pour remplir les formations, mais en
sur
amont,
la durée,
en amont, que les personnes qui viennent en fait sachent où elles vont, qu'elles soient pas orientées là par défaut. Donc il y a un enjeu important, notamment sur les voies professionnelles et technologiques de formation initiale de ce point de vue-là. Et il y a un enjeu du coup que les personnes aillent jusqu'au diplôme, le réussissent et ensuite s'orientent vers les métiers qui recrutent et les entreprises qui recrutent et avec des belles perspectives de carrière, hein, il faut le savoir. Et donc c'est pour ça qu'au campus des métiers, on travaille beaucoup avec les entreprises et avec les établissements de formation ou les institutions que sont l'éducation nationale, que sont les universités, l'IUT, les écoles d'ingénieurs et les organismes de formation continue. Chris parlait des colorations, donc ça c'est un moyen de travailler à la fois sur donner du sens dans le cadre de la formation. On met en contexte en fait les apprentissages, on respecte le programme, mais on met en contexte et en amenant aussi des entreprises, des visites, des stages, ce qui permet de renforcer la formation. Et puis on accompagne, Valérie parlait aussi, donc ça permet de donner du sens, ça permet aussi de donner des compétences peut-être plus actuelles ou plus en lien avec les recrutements à la sortie du diplôme. Et on travaille aussi sur le volet des compétences transverses, des soft skills. Avec Engie, on est en train de développer dans le cadre de nos projets un module de formation autour de ce volet-là qu'on diffusera également, qu'on va mettre à disposition des organismes de formation.
Et du côté du Greta, j'imagine que pareil, les formations pour vous, c'est essentiel, hein, c'est votre domaine.
C'est exactement ça. Alors, pour rebondir sur ce que disaient Chris et Annabelle, effectivement, les soft skills, toute cette partie-là, c'est clairement un enjeu des générations qui arrivent en formation. Donc ça, on a un attachement tout particulier à travailler ces points-là. De la même manière, la sécurisation des parcours dont parlait Annabelle, c'est-à-dire qu'effectivement, les personnes qui rentrent en formation, nous, sur la formation professionnelle, ont déjà un passif de travail ou déjà d'autres formations. Donc c'est comment sécuriser le parcours pour que effectivement à la fin de la formation elles arrivent enfin jusqu'à la partie certification diplôme. Et puis l'autre partie dont on parlait avec les drones dont a parlé Chris, c'était cette partie digitalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un enjeu important, c'est aussi que dès le passage en formation, les personnes soient au contact de modules qui soient un peu hybridés avec de la réalité virtuelle, des modalités un peu novatrices mais qui permettent déjà d'amorcer des fonctionnements et puis quelque part un peu des réflexes, des automatismes, ce qui facilitera après lors de la prise de poste toutes les nouvelles utilisations d'autres procédés.
Parce que tous ces métiers-là, je pose la question comme ça un peu bête, mais y a, si par exemple on arrive chez vous, je pense à vous deux, si on arrive chez vous, est-ce qu'on peut démarrer sans expérience entre guillemets et être formé par vous sur le terrain? Comment ça se passe? Qui veut réagir?
Moi, je voulais prendre l'exemple des drones tout à l'heure, parce que justement, hier, on va rebondir là-dessus.
Ah, moi, j'adore.
Non, mais j'avais un très beau témoignage d'un technicien qui a démarré il y a 20 ans dans l'entreprise comme électricien et qui est passé dans d'autres domaines et puis qui a intégré le labo du numérique et qui est aujourd'hui pilote de drone. Et donc, il témoignait devant la nouvelle promotion de futurs techniciens, mais qui démarrent leur bac pro là cette année, justement pour leur donner envie et leur dire il y a des perspectives et on commence à se former sur un métier purement technique, mais on peut évoluer vers d'autres domaines. Et donc ça, c'est toute la richesse aussi du groupe d'être présent sur plusieurs domaines.
Chris, voilà.
Oui, alors on a une voie royale de formation qui est la formation électrotechnique, peu importe le niveau, hein, ça va du CAP, BEP jusqu'au master 2. Et derrière, on va accompagner donc des personnes qui connaissent déjà et qui ont déjà les notions d'électrotechnique. Mais après, on a aussi des filières de reconversion. Et là, c'est un bon exemple pour voir d'où on part, qu'on appelle MREAS, dans laquelle on est capable de former des personnes donc, qui viennent de tout autre métier. Chauffeur de taxi, boucher charcutier, la personne, je l'ai vu, donc la personne veut changer complètement d'orientation professionnelle, et là effectivement on va travailler entre autres avec le Greta. Il va avoir une année de formation en alternance, donc en partie dans nos équipes. Alors forcément, vu qu'il a pas encore les connaissances, les compétences, et qu'on est sur des métiers qui demandent des hauts degrés de sécurité, hein, l'électricité, tout comme le gaz. Et je dirais encore plus, le gaz a une odeur, l'électricité n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. Donc,
c'est encore plus dangereux.
Donc c'est encore plus dangereux. Et donc, effectivement, dans les premiers mois, il va faire très peu d'actes, mais il va accompagner les équipes, il va être en immersion, et puis il va apprendre quand il sera en cours. Et puis, au bout d'un an, il va rentrer dans nos équipes. On va poursuivre des formations qui sont des formations en interne, on a aussi nos centres de formation, et petit à petit il va apprendre l'ensemble des métiers, des gestes techniques, et donc oui, on peut rentrer en n'ayant absolument aucune connaissance, et donc on va savoir accompagner ces personnes-là.
Et puis c'est tout l'intérêt aussi d'apprendre, finalement de partir de rien et d'arriver à quelque chose. Moi je trouve ça très intéressant ce que justement vous disiez, Chris, tout à l'heure par rapport à la transmission un peu du métier. Moi je trouve quand même que c'est quelque chose de fondamental, parce que moi quand j'ai commencé, j'ai pas eu vraiment d'anciens pour me montrer comment le métier fonctionnait. Moi, je travaillais dans le bâtiment aussi avant. Et je trouve que c'est important finalement d'avoir un peu des cadres dans les entreprises qui ont de la bouteille, comme on dit, et qui apprennent aux jeunes. Ça, vous faites attention dans vos entreprises à ce que bien les anciens apprennent aux nouveaux.
Tout à fait, oui. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on a même plusieurs autres dispositifs. Donc là, je parlais de ce dispositif parce qu'il est assez récent, où en fait, on demande à des anciens s'ils souhaitent dans leurs dernières années, peut-être même prolongées un petit peu avant leur départ en retraite, et puis être vraiment dans une posture d'accompagnement. On a aussi du, je ne sais pas si je peux parler de mentorat puisqu'on est en interne de l'entreprise, mais en tout cas des sortes de compagnonnage avec ce qu'on appelle la PST. Il faut que je retrouve l'acronyme. Posture en situation de travail. En fait, on va faire travailler la personne qui est apprenante, mais avec un technicien aguerri à côté d'elle, qui va vérifier qu'elle fait le bon geste technique et qui va la corriger en direct. Alors, toujours dans les règles de sécurité, donc on monte petit à petit en termes de technicité et puis de geste technique dans le niveau de risque qui peut y être associé. L'idée étant qu'on soit toujours en risque zéro, hein, bien sûr. Donc, comme ça, on va accompagner. Mais en fait, la personne, on va la mettre aussi dans une posture avec une personne aguerrie, compétente, qui a été validée, hein, pour faire ce type d'accompagnement. Et donc, on sait faire aussi ces choses-là qui sont extrêmement riches, qui sont à la fois très apprenantes pour la personne qui est en situation et qui sont extrêmement enrichissantes aussi pour la personne qui est plutôt en compagnonnage.
Madame Morisseau, je voyais tout à l'heure réagir à ce que disait Chris. J'ai vu que vous avez noté quelque chose. Moi, je veux savoir ce que vous avez noté.
Tout à fait. En fait, c'est super important ce que disait Chris, là, pour aussi le lien entre l'entreprise, ses besoins et les formations et l'évolution des formations. Et il parlait de transmission et des salariés d'Enedis éventuellement en fin de carrière. Et effectivement, il y a vraiment des ponts à faire et ça commence à se faire de plus en plus avec ce qu'on appelle des professeurs associés ou professionnels associés qui sont mis à disposition par les entreprises et qui viennent compléter avec les enseignants ou dans les organismes de formation pour parfaire les formations et justement sur ces gestes très professionnels, sur ces notions de sécurité. Et c'est une partie de l'évolution des formations actuellement d'aller vers ce type de partenariat.
Et du coup, en termes de personnes qui sont intéressées par tous ces domaines-là, on est sur une tranche d'âge plutôt jeune.
En termes de...
De personnes qui veulent justement intégrer tous ces différents métiers, en fait, tout simplement.
Il n'y a pas d'âge. Notre enjeu, c'est de convaincre en fait tout le monde. Et pour un certain nombre de filières de la transition énergétique, il y a tellement de besoins en fait de recrutement pour réussir la transition énergétique et atteindre les objectifs de décarbonation qu'il y a un focus assez fort, certes, pour faire la formation initiale et les jeunes, mais on sait qu'il y a des gros besoins aussi, peut-être un tiers ou 25% vers les reconversions.
Et puis vous avez un réel but aussi, ce qui est différent comparé à certains métiers, c'est que vous, il y a aussi des, comme vous avez dit, des enjeux derrière, au niveau même de l'environnement, etc. Donc ça fait quand même une petite pression. Il y a quand même aussi est-ce que c'est des métiers qui sont c'est pas vraiment une blague, hein, mais est-ce que c'est des métiers en tension? Oui, les tensions, électriques, je me suis dit, mais non, mais c'est réel, parce que je me suis dit aussi, c'est des métiers qui sont peut-être un peu stressants. Tout à l'heure, vous parlez du risque zéro, des fois, il y a des risques, hein, mais justement, est-ce que ça fait peur aux jeunes, en fait, ces métiers-là?
Oui, c'est une bonne question, effectivement. Je laisserai Valérie réagir, pardon. On a fait un travail, et notamment toujours sur un projet où Engie est partenaire, avec des chercheurs en psychologie sur les représentations des collégiens. Et effectivement, une des premières images, ça peut être le métier de la transition énergétique, c'est le métier d'électricienne ou d'électricien. Et ça peut inquiéter un petit peu, donc il y a des choses à casser, et la sécurité et les procédures font partie des apprentissages et des soft skills. Et c'est à nous tous de montrer aussi l'intérêt, les carrières, les perspectives d'évolution et le sens qu'il y a aussi derrière. Et Valérie.
Je voulais rebondir effectivement sur le comment on accompagne les collaborateurs qui viennent sur ces métiers-là. Les plus jeunes, ils sont souvent en alternance, hein, donc on va retrouver cette idée de binôme avec un tuteur qui est pas forcément un très très senior. Hein, on peut être tuteur avant. Il y a le volet des personnes qui ont eu une autre vie antérieure et qui font plus de la reconversion et qui rejoignent ces métiers-là parce qu'il y a un besoin. Et si on est un peu manuel et qu'on aime bien, voilà, qu'on est sensible aussi au sujet de la transition énergétique, il y a vraiment capacité à trouver un job.
Moi, je rebondis par rapport à ce que tu dis, Valérie, c'est que effectivement, il y a aussi les évolutions de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la transition énergétique, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, dont on entend parler. Il y a des débats, enfin, il y a des choses qui sont prégnantes. Et dans les publics que l'on reçoit au niveau du Greta, on a tout type de public. Des salariés qui veulent potentiellement se spécialiser sur des thématiques bien ciblées. On a les demandeurs d'emploi qui ont aussi l'information que, ben, il y a des formations de plus en plus nombreuses sur ces thématiques-là et qui sont intéressés aussi dans une implication citoyenne. Et puis on a aussi effectivement les transitions pro, les personnes qui ont eu un précédent métier, ont pris conscience de certaines choses, ont décidé de changer de route. Et je pense qu'aujourd'hui, comme le disait Annabelle, il n'y a pas d'âge. Il y a effectivement un panel d'un public qui est sensibilisé et qui a envie de s'investir sur ces thématiques-là.
Oui, après, est-ce que c'est des métiers en tension? Oui. Non, mais pour une autre raison, c'est qu'une partie de la transition énergétique, ça va être quand même une évolution du mix énergétique avec une place de l'électricité qui va être plus importante, qui sera pas... Il n'y a jamais de vérité absolue et on ne sera pas 100% électrique, 100% gaz, 100% hydrogène. Donc, il y aura un mix qui restera. Mais c'est vrai que l'électricité va avoir une place qui sera extrêmement importante. Et l'électricité, en fait, les métiers, l'appel d'air, il va être énorme. Parce que là, je vous ai parlé tout à l'heure de la filière. Donc, c'est 43 000 embauches d'ici 2030. Mais on n'a pas parlé de la filière hydrogène. En fait, l'hydrogène, avant l'hydrogène, vous avez de l'électricité et de l'eau. Après l'hydrogène, vous avez de l'électricité. Donc, il y a du métier de l'électrotech aussi dans l'hydrogène. On va parler du nucléaire qui se relance. Il y a aussi toute la filière de production ENR qui est très largement activée. Donc, en fait, c'est un volume et un besoin d'emploi qui est gigantesque. Et donc, il y a effectivement une question de tension sur le volume que la société et l'éducation nationale est capable de fournir en termes de jeunes techniciens, volume qui est limité aussi par le fait qu'il y a un certain nombre de classes. Il y a aussi plus ou moins d'envie d'aller dans ces filières qui sont, on en a parlé tout à l'heure, peut-être pas les plus connues et qui ont pu à certaines périodes être dévalorisées, et alors qu'aujourd'hui elles sont absolument indispensables. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'un jeune aujourd'hui, quel que soit son niveau, qui rentre dans une filière électrotechnique, s'il a son diplôme et qu'il s'y intéresse, il aura du boulot.
Ah, dans tous les cas,
il aura du travail. Il va vraiment falloir qu'il cherche à l'éviter pour pas en avoir. C'est une voie royale. Donc voilà, mais métier en tension. C'est pour ça aussi que on souhaite faire de la reconversion, parce que ça va être un complément qui va nous permettre d'appeler aussi d'autres publics. Et effectivement, il y aura un travail à faire. Donc on a commencé pour l'instant plutôt avec le système scolaire, mais il va y avoir un travail à faire. Et vous parliez tout à l'heure de l'appréhension du risque. Alors nos métiers, quand ils sont bien faits, en toute sécurité, ils ne sont absolument pas dangereux. Mais par contre, on a des règles à respecter. Donc si on respecte ces règles, tout se passe très bien. On a du matériel, on peut peut-être faire un mauvais geste. On a du matériel qui nous protège, donc s'il est bien utilisé, le risque, il est complètement supprimé. Mais après, je pense qu'avec la maturité, on peut peut-être avoir un peu plus peur aussi que dans les jeunes années, parce que il y a le temps passe, on entend aussi.
Mais vous m'avez rassuré, ça va.
C'est bon.
Ouais, c'est bon, c'est bon. Je suis prêt à me reconvertir professionnellement. Hein. Attention. Voilà. Je voyais réagir Audrey tout à l'heure justement ce que disait Chris.
Ben oui, je rejoins tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, le risque et la pénibilité dans ces secteurs-là, c'est pas vraiment des sujets vraiment prégnants. C'est-à-dire que on n'est pas sur des métiers avec une pénibilité forte comme peut l'être un maçon. On est sur une chaîne de sécurisation avec des process très clairs et quand ils sont suivis, où il n'y a absolument aucun risque. Donc il faut juste enlever peut-être parfois certaines idées reçues qu'on peut avoir sur ces métiers techniques où aujourd'hui on les habite plus de la même manière et si on arrive à faire tomber quelques clichés, je pense que ça permettra aussi d'avoir...
Parce qu'il y a beaucoup de... Vous trouvez qu'il y a beaucoup de clichés justement dans ce métier-là? Un peu?
En fait, sur tous les métiers techniques, plus largement.
Ouais. Ouais,
c'est pas,
que...
spécifique à cela. C'est que voilà, le système éducatif a poussé ou promu plus les fonctions support, et aujourd'hui, les fonctions support, elles sont fortement en décroissance.
Est-ce
donc
qu'on...
c'est vraiment... Il faut aller vers les métiers techniques.
Pardon Chris, oui, allez-y.
Je suis complètement d'accord.
Non, en fait, moi, ma question aussi, c'était de dire, parce que moi aussi, je suis, bon, moi, du coup, une école du bâtiment, mais en fait, souvent, c'était, en fait, le bâtiment, quand j'étais à l'école, c'était pas forcément ce qu'il y avait en entreprise. Est-ce que vous arrivez justement à bien collaborer ensemble entre entreprise et justement, bah, par exemple, le Greta ou voilà, le campus? Comment vous communiquez entre vous, en fait, entre les entreprises et vous?
Alors là, aujourd'hui, nous, on est en lien étroit. C'est-à-dire que, comme le disait Annabelle tout à l'heure, on a même des intervenants, enfin la majorité des intervenants au sein du Greta sont des professionnels, en fait. Donc des personnes...
Directement, en fait, ils viennent sur place.
Ils sont déjà là, en fait. Ils sont déjà là. On peut avoir des artisans, on peut avoir des personnes dans des grandes entreprises qui interviennent aussi un peu chez nous. Donc en fait, le lien, il est de fait. Déjà dans notre manière un petit peu de transmettre les savoirs. Ce qui, effectivement, va être différent de la formation initiale, donc quand on est sur les bancs du collège ou du lycée, où pour le coup, on va avoir des enseignants, et où parfois, pour valoriser les métiers qui sont du coup extrêmement techniques, comme le disait Valérie, on a besoin en fait des personnes qui l'ont vécu, l'ont expérimenté. Dans la transmission, on gagne déjà, on fait sauter un petit peu des verrous parfois que peuvent avoir les apprenants.
Annabelle, j'imagine que vous partagez.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment le rôle du campus des métiers, enfin des campus des métiers, des qualifications, de faire ce lien entre les entreprises, les organismes de formation. Voilà. Après, la collaboration, elle se fait vraiment à plein de niveaux. Bah, voilà, aujourd'hui, ouais, on est là tous ensemble sur ce forum des métiers. Demain, ce sera aussi la nuit de l'orientation, voilà, sur le campus de Saint-Martin-d'Air, organisé par la CCI. On a des actions locales, donc on favorise aussi la relation directe avec les établissements scolaires. Et puis, on conduit aussi des projets. Donc là, on construit des actions, on se donne des objectifs, on va chercher ensemble des financements. Et ça, c'est très structurant aussi pour construire la relation entreprise, école, etc. Mais voilà, ça se fait vraiment à plein de niveaux.
Merci. Comment vous pouvez conseiller, on va dire, ou envoyer un message à peut-être un jeune qui nous écoute et qui serait susceptible d'être intéressé par ce que vous faites? Comment vous pourrez le convaincre? C'est le moment promo, Chris.
Ah, c'est le moment promo. Ah. Je suis embêté parce que je l'ai déjà dit. Alors, je pense qu'il faut... alors là, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui sont sur Alpexpo, mais il faut absolument aller sur le stand d'Enedis pour voir déjà...
Parle-nous-en du stand, d'ailleurs.
Le matériel qu'on utilise. On a une superbe nacelle 4x4 qui est sur place et qui fait monter les jeunes. On fait monter les jeunes dans la nacelle pour se rendre compte un petit peu de ce que vivent nos agents au quotidien.
Risque zéro. Hein.
Risque zéro, absolument. Il faut absolument que vous alliez les voir. Ils sont équipés, ils ont un casque, ils sont accompagnés. Hein. Ils ne sont pas tout seuls. On a aussi qui monte à l'avant du camion à la place du conducteur. On a enlevé les clés. donc c'est complètement sécure. Et puis on a des personnes qui sont là surtout pour expliquer, alors à la fois des techniciens, des collègues des RH, des collègues de mon équipe qui sont là pour expliquer aussi leur métier au quotidien et puis en quoi ces métiers-là sont intéressants. On contribue directement à la transition énergétique. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de raccorder en fait le connecting people. Alors je vole le slogan et en plus je fais de l'anglicisme, mais vraiment en fait sans le réseau, la transition énergétique, elle est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça, c'est extrêmement enrichissant. La filière électrotechnique, j'en ai déjà parlé, vous êtes sûr d'avoir du travail en sortant. Et puis après, on propose un panel de métiers qui est extrêmement varié. C'est ce qui est riche aussi, parce que il y a des personnes qui sont heureuses, qui vont faire toute leur vie sur le réseau dehors. C'est un métier d'extérieur, hein, donc alors Des fois, il fait un peu moins beau, il fait un peu plus froid, un peu
c'est
plus
chaud.
Aléas, c'est les aléas, mmh. Mais c'est aussi un plaisir et une chance de pouvoir encore faire ce type de métier. On a aussi des métiers de bureau, on a des métiers d'études, et on est capable, quand on est rentré dans l'entreprise, on s'est formé pour passer d'un métier à l'autre. Donc c'est une grande chance de pouvoir rentrer dans notre entreprise. Et voilà, j'invite vraiment les jeunes à regarder ces filières-là et puis nos métiers.
Valérie ?
Les jeunes et les moins jeunes.
Et sont en reconversion aussi.
Voilà, et vraiment, voilà, ce que je voulais, vraiment, en conclusion, c'est vrai que je veux dire qu'il y a une diversité des métiers et qu'on peut l'aborder sur le plan technique. On a eu pas mal de focus ce matin là-dessus. Mais on peut aussi rentrer dans nos métiers par le biais du digital et du numérique. On peut aussi y rentrer plus par le focus que j'avais tout à l'heure sur la gestion de l'énergie et plus de l'économie. Donc en fait, il y a différentes voies pour arriver sur les métiers de la transition énergétique, et les plus gros besoins certes sont avec des compétences techniques.
Yes. Annabelle.
Oui, et moi, alors je ne vais pas redire ce qu'on dit très très bien Chris et Valérie, je m'adresse aussi aux jeunes filles et aux femmes, on n'en a pas beaucoup parlé.
On va repartir sur un débat là.
Non, pas du tout, ça fait consensus, mais non, c'est vraiment dans la filière et dans les formations, il y a peu de femmes et de filles, et elles sont attendues, d'abord parce qu'il y a des tels volumes de recrutement qu'il ne faut pas se priver de la moitié de la population. Voilà, donc c'est le premier message, mesdames, mesdemoiselles. Et les entreprises attendent aussi. Hein. Elles sont très accompagnantes et très partie prenante pour la féminisation. Et puis, deuxième message pour les familles, pour les parents. Vraiment, soyez rassurés si vos jeunes, vos enfants, vos étudiants vont vers les filières professionnelles et technologiques. Valérie l'a très bien dit, ce sont des fonctions support sont plutôt en décroissance, et par contre les métiers techniques vont pas être remplacés par des IA. Et donc allez-y.
On a quand même 10 minutes. Je sens que vous voulez réagir sur quelque chose.
Sur l'enjeu de féminisation, c'est clairement.
Non, mais c'est très important.
C'est un de nos objectifs. Donc on a des campagnes qui vont dans ce sens-là. On a hier, pour reprendre l'exemple, où on lançait cette promotion avec le lycée Raspail de techniciens. Il n'y avait pas une seule fille. Voilà. Alors, on a fait témoigner une technicienne qui travaille sur un réseau de chaleur à Paris, mais c'est vraiment dommage. Quoi. Il y a des très beaux métiers autour de l'énergie.
Et justement, bon, là, vous m'avez relancé. Là. Mais non, mais justement, est-ce que vous mettez en place justement des... Comment vous faites pour justement attirer ces jeunes femmes, en fait, finalement ? Ces femmes, tout court.
De la communication, des interventions, des témoignages, des programmes dédiés, dont Elevator. Enfin voilà, il y a des parcours qui sont construits et on essaye d'essaimer et d'aller aussi beaucoup dans les écoles pour aller promouvoir le métier.
Yes, j'ai beaucoup d'espoir en tout cas. Audrey.
Je vais rebondir sur la féminisation, c'est-à-dire. Aujourd'hui, on est 3 femmes sur 4 personnes à intervenir. Donc,
c'est
quand même à noter pour les auditeurs. Il est évident que pour faciliter la féminisation, il faut qu'on soit aussi dans une logique de déconstruction. Aujourd'hui, le Greta, on a aussi des actions auprès des jeunes filles, auprès des femmes, pour effectivement que ces métiers techniques, alors pas uniquement là autour du cœur de métier dont on parle, mais finalement sur toutes les thématiques du bâtiment, montrer que les femmes sont attendues et sont, j'aurais envie de dire, un peu choyées aussi dans les filières, parce que de par la rareté. Donc ça, c'était le premier point. Je voulais aussi apporter un élément par rapport à la formation professionnelle. On parlait des différents publics, salariés, ceux en reconversion. Juste que la représentation de la formation soit juste, on est sur des formations, on est à 60-70% sur de la formation technique en plateau technique. C'est-à-dire pas du tout sur de la transmission théorique uniquement descendante. On est vraiment sur pratiquer le métier pour après pouvoir l'incarner et puis le vivre de manière agréable et pérenne. Et le Greta se positionne vraiment sur un mode d'accompagnement. Accompagnement des apprenants en travaillant avec eux au quotidien, et l'accompagnement aussi des entreprises, puisque on travaille en partenariat pour créer les bonnes formations et les bonnes choses et répondre aux besoins du territoire.
Est-ce que du coup tout a été abordé ? On est bon ? Vous avez un dernier mot ou quelque chose à rajouter ?
Rejoignez-nous.
Venez.
On vous attend.
Venez. Ah, ça va. Mais juste par rapport, avant de clôturer, justement, vous parlez de vos stands. Vous êtes tous sur le même stand ou comment ça se passe du coup? Parce qu'on n'a pas trop parlé de vous. On a parlé de votre stand. Du coup,
alors, je vais dire pour le Greta. Oui. Alors, pour le coup, le Greta, au-delà des formations du bâtiment, nous avons un stand propre Greta avec le tertiaire et toutes les thématiques hôtellerie, enfin tous ces sujets-là. Et pour la partie bâtiment, nous avons la chance d'être sur le stand bâtiment avec les entreprises, la Fédération du bâtiment et la CAPEB. Donc, pour aussi bien voir que nous sommes un collectif, nous ne fonctionnons pas en silo, on est vraiment là en mode groupé.
Pareil.
Oui, le campus des métiers, vous l'avez compris, c'est un réseau. Et donc, à ce titre-là, on n'a pas non plus un stand, mais on a accompagné Grenoble-Alpes-Métropole pour le montage du pôle industrie et énergie. Donc voilà, à côté du stand d'Enedis, il y a plein d'autres animations, un projet sur l'hydrogène, l'IUT de Grenoble qui est là, EDF, Waga Énergie, GEG. Donc,
ah bah magnifique, donc, voilà, tout le monde est réuni.
Voilà, et Valérie aussi intervient cet après-midi.
Moi, j'interviens sur le stand du collectif des entreprises pour une économie plus inclusive, pour faire des entretiens avec des jeunes qui, justement, se posent des questions sur quelle formation et quelle voie.
Et bien voilà, toutes les informations sont données. Reste pour moi à vous remercier d'avoir participé à cette table ronde.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite en tout cas longue vie dans tous vos projets et dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, merci à vous. Et puis nous, on se retrouve juste après, bien évidemment, la petite pause déjeuner. On est obligé, il faut qu'on mange, hein, sinon on n'arrivera pas à tenir toute la journée. On se retrouve d'ici quelques instants. Bon appétit et puis à très vite.
News FM en mode hors les murs. Jeudi 9 octobre 2025, deuxième et dernière journée du Forum des métiers Grenoble-Alpes-Métropole, édition 2025 à Alpexpo Grenoble.